Il est 18h18.
France Inter, le 18-20.
Parfois, les habitants de la Libella viennent veiller sur leurs églises et disent « Ça y est, les églises vont être détruites, elles vont mourir. »
Des églises d'Éthiopie, figurez-vous, c'est là que je vous emmène ce soir découvrir des trésors classés au patrimoine mondial de l'humanité, des églises orthodoxes donc, mais ça n'est pas sans poser de problème, on le découvrira ensemble. Sous le radar est Amélie Perrier, vous l'avez entendu, en Turquie à la Scala, 18h50, la chronique pour tous de Julia Foyle, où l'on comprendra qu'en matière de publicité genrée à souhait, il y a encore de gros progrès à faire dans le monde. Et puis 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four et les dépôts de brevets industriels, ils sont très majoritairement déposés par qui ? Par les Chinois. Et quelle société est très loin devant ? Eh bien c'est Huawei. Tiens donc, on en parle donc tout à l'heure. Avant cela, nous allons en Syrie ce soir à Barouz qui n'en finit pas de tomber. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Depuis le 9 février, on verra d'ailleurs qui est le on nous explique que l'État islamique est défait, que Barouz est la dernière poche qu'elle va céder et ce sera la fin de l'État islamique, en tout cas sous sa forme territoriale. Depuis, c'est une fin assez interminable et c'est pour ça qu'on a voulu y revenir d'ailleurs, essayer de comprendre ce qui se passe là-bas. On va le faire grâce à Aurélien Colli qui en revient pour France Inter et qui nous attend à l'aéroport d'Erbil puisqu'il est sur le chemin retour. Et puis avec vous aussi, Nicolas Tenzer, bonsoir.
Bonsoir Fabienne Saint-Fès.
Vous êtes président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Vous êtes aussi prof à Sciences Po. Avant de rejoindre Aurélien, rapidement entre nous, les freins pratiques à un épilogue, on va y venir dans un instant. Est-ce qu'il y a aussi des freins politiques ? Au fond, qui a intérêt à ce qu'on ralentisse un peu la marche pour l'instant et que les choses soient un poil plus lentes ?
Je pense qu'il y a effectivement d'abord quand même des freins pratiques,
oui,
parce
absolument.
Qu'on veut éviter malgré tout de recommencer l'épisode de Raqqa qui était quand même catastrophique en termes de pertes civiles. Des freins politiques aussi parce que on ne sait pas très bien ce qu'il va advenir finalement de toutes ces personnes djihadistes, enfants de djihadistes qui sont encore, semble-t-il, dans cette ville, même si certains sont partis ou se sont rendus, que certains civils ont pu être sauvés. Et il y a une grosse incertitude qui plane sur eux ou sur elles, à un moment où on sait très bien que de fait, la fin de Barouz, ce n'est pas malheureusement la fin de Daesh.
Alors, on y viendra ensemble après avoir écouté Aurélien, mais c'est vrai qu'il y a aussi de ça. Au fond, est-ce qu'on n'a pas intérêt à attendre un peu avant de siffler la fin, pardon de le dire comme ça, parce qu'on sait que la suite, effectivement, est peut-être encore plus compliquée que ce qui a été traversé ici.
Alors, je pense qu'il y a quand même d'abord, encore une fois, l'intérêt essentiel, c'est l'intérêt des civils. Je pense qu'il ne faut pas avoir de calcul ou imaginer des complots là-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'avec le retrait partiel américain, on y reviendra, il y a quand même beaucoup d'interrogations sur la suite. Il faut savoir que malgré tout, l'environnement est loin d'être stabilisés, que vont devenir aussi notamment tous ces djihadistes ? Est-ce qu'ils resteront aux mains de ceux qui les ont capturés, notamment les SDF ? Ou bien est-ce qu'on aura une autre solution
pour... Est-ce qu'on a sous-estimé peut-être le nombre de combattants de l'État islamique qui restaient retranchés ?
Oui, il y a eu une sous-estimation au début qui paraît tout à fait claire. On a vu quand même des nombres incroyables sur cette toute petite surface qui est moins d'un kilomètre carré dans le coin de Barouz. Et puis encore une fois, il y a eu de la part d'un ensemble de dirigeants une sous-estimation de l'état de Daesh aujourd'hui.
Aurélien Colli, bonsoir. Aurélien, vous m'entendez ?
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
C'est là-dessus, je voudrais vous entendre Aurélien, puisque vous en revenez, je le disais tout à l'heure, vous êtes à Erbil, vous êtes sur le chemin retour en fait vers Beyrouth chez vous. Racontez-nous à quoi ça ressemble en fait, cette espèce de bande de terrain qui est encore aux mains des djihadistes. Ce territoire, il est long, comment il ressemble à quoi ?
Alors peut-être juste le contexte, Barouz est complètement rasé, hein. C'était un village, les maisons sont détruites, les routes sont détruites aussi, vous avez des cratères de frappe aérienne au milieu des routes, ça c'est déjà un décor qui est impressionnant. Alors la bande de terre maintenant sur laquelle sont encore les derniers djihadistes et leurs familles, voire peut-être d'autres civils, elle ferait à peu près, hein, une centaine de mètres de large le long du fleuve Euphrate et à peu près 1 km jusqu'au mont Barouz, qui est une montagne en fait qui borde l'Euphrate forces à l'est, et puis vous avez au nord et à l'ouest les forces démocratiques syriennes qui, elles, poussent, font surtout le siège en fait, elles attaquent plus vraiment l'État islamique, elles essayent de faire sortir tous ceux qui sont à l'intérieur. Et sur cette bande de terre, vous avez encore eh bien certains bâtiments en dur qui regroupent des djihadistes. Alors souvent, c'est ce genre de bâtiments qui sont ciblés par les frappes aériennes. Et à côté, vous avez des tentes, alors souvent des tentes de fortune, hein, c'est des bâches, c'est des morceaux de plastique. Et puis, pour se protéger, les familles de djihadistes ou les civils creusent des trous à l'intérieur pour essayer de se protéger des frappes aériennes. Donc, alors... c'est une grosso modo, j'en parlais avec quelqu'un des forces démocratiques syriennes, il appelait ça en anglais « tent city », donc une ville de tentes.
Alors, pour revenir un instant sur ce que vous disiez, 100 mètres sur 1 kilomètre, donc effectivement c'est rien. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on sait combien il reste de personnes à l'intérieur, combien il y a de civils, combien il y a de combattants? Est-ce qu'on peut dire ça? La dernière fois qu'on a vu du monde sortir, Aurélien, c'était le 15 mars dernier, il y a eu 1300 personnes sorties d'un coup, des femmes, des enfants, certains combattants. Aujourd'hui, on peut compter ou pas?
C'est extrêmement difficile, très honnêtement. Hier, on a eu une conférence de presse avec l'un des porte-parole des forces démocratiques syriennes. Il nous annonçait 5000 personnes à l'intérieur, à peu près un millier de djihadistes et le reste des familles et des civils. 4 jours avant, j'avais vu un responsable des renseignements kurdes. Lui me parlait d'à peu près encore un millier de personnes à l'intérieur. Il y a 15 jours, on en a vu à peu près 7000 sortir en une semaine. Donc c'est extrêmement difficile de savoir quand on s'adresse aux forces démocratiques syriennes. Maintenant, je pense que les Américains, les Français, les Britanniques qui sont dans cette zone savent un peu plus précisément qui est à l'intérieur. A priori, on serait sur à peu près un millier de combattants et à peu près 5000 personnes en tout, si on compte les familles et puis aussi certains civils. On a du mal à savoir si une partie de ces civils sont prisonniers, utilisés comme boucliers humains ou pas.
Et c'était ça le sens de ma question en fait. Est-ce que ces civils effectivement sont des boucliers? Est-ce que ce sont des prisonniers? Est-ce qu'on peut dire que certains sont même des sympathisants? Qu'est-ce qu'on dit sur ces 5000 qui restent? Est-ce qu'on sait comment ça se partage?
Alors quand on parle aux porte-parole des forces démocratiques syriennes, eux ils disent « civil ». Donc c'est extrêmement difficile de savoir si derrière ce mot « civil », on a affaire à des familles de djihadistes, des familles et des djihadistes qui veulent pas sortir, ou s'il y a encore à l'intérieur réellement des gens qui sont retenus contre leur gré, des prisonniers, etc. Moi je me suis adressé aux porte-parole, ils m'ont dit des civils, et quand je me suis rapproché du front, j'ai parlé à des commandants, et là les commandants d'unités qui sont vraiment pas très très loin du front, eux parlent plus de boucliers humains. Alors on n'arrive pas très bien à savoir, est-ce que c'est des populations civiles qui ont été transportées? Est-ce que ce sont des prisonniers de l'État islamique? Est-ce que ce sont par exemple des soldats des forces démocratiques syriennes qui sont retenus? Est-ce qu'il y a même quelques otages, peut-être, qui ont disparu ces dernières années, qui sont encore à l'intérieur? C'est vraiment la difficulté qu'on a, c'est à savoir précisément qui est à l'intérieur et combien de personnes sont à l'intérieur.
Et alors, vous nous décrivez bien effectivement les difficultés de ces conditions-là pour savoir effectivement démêler le vrai du faux. Vous avez partiellement répondu, Aurélien, comment ça frappe, en fait? Comment on essaye de les faire sortir? Est-ce que c'est la fin FAIM qui finira par faire sortir tout le monde? Est-ce que c'est ça la stratégie? On l'a vu d'ailleurs ailleurs. Ou est-ce qu'il y a encore des offensives vers ces gens qui sont retranchés dans cette bande de 100 km sur 1 km, de 100 mètres sur 1 km?
Alors, du côté des forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire les forces arabo-kurdes, les alliances entre les Kurdes et les YPG et puis les tribus arabes, clairement, il n'y a pas d'offensive au sol qui soit lancée. On essaye de tenir la ligne de front et de maintenir le siège. L'idée, en fait, c'est que ce sont les frappes aériennes et les bombardements de l'artillerie, que les frappes soient américaines, françaises, ou les bombardements de l'artillerie française, américaine ou britannique, qui fassent sortir les gens. Donc, pour les forces démocratiques syriennes, il n'y a aucun intérêt, si vous voulez, aller avancer 150, 200 mètres pour essayer de reconquérir une bande de terre, avec le risque de sauter sur des mines, de faire face à des kamikazes, donc de perdre des hommes. L'idée générale, c'est que les frappes aériennes, vont finir par saturer, en fait, grosso modo, et venir à bout de la détermination des gens qui sont à l'intérieur, même les djihadistes les plus durs, et finir par les faire sortir. Il faut savoir que les forces démocratiques syriennes ont ouvert un corridor, en fait, qui est sur l'est de cette bande de terre qui est encore sous contrôle de Daesh, qui monte vers le Djebel Baghouz, le mont Baghouz. Là, il laisse les civils sortir. Après, la question est de savoir quels civils sortent. Est-ce que l'État islamique à l'intérieur laisse tout le monde sortir? Est-ce que les gens ont le choix de sortir? On a vu beaucoup cette dernière semaine différentes nationalités sortir, par exemple des Ouzbeks, par exemple des Turcs, etc. Visiblement aussi, à l'intérieur, il y a des problèmes de dissension entre les différentes composantes de l'État islamique. je suis désolé, il y a un appel, je suis
ouais,
à l'aéroport.
Non mais on entend et on est en direct
et
vous êtes exactement à l'aéroport d'Erbil en train de rentrer chez vous. Merci beaucoup en tout cas Aurélien pour toutes ces précisions et nous permettre de comprendre un peu comment ça se passe sur place. Merci vraiment. Nicolas Tenzer, on comprend bien la difficulté de clore, la difficulté de la fin. On a vu des choses qui sont pas forcément similaires mais qui sont aussi compliquées dans d'autres villes. C'est la fin de quoi ? La fin territoriale au fond, parce qu'à un moment effectivement, ces gens sortiront de leur tanière. Oui. Ce sera la fin de quoi ?
Eh bien, justement, on se demande, la fin du califat, ça fait longtemps que c'est la fin du califat, j'allais dire heureusement. Là, c'est la fin du dernier réduit, mais encore une fois, ce n'est pas la fin de Daesh, parce qu'on sait très bien, on a vu d'ailleurs avec des attentats en Irak, dans certains endroits de Syrie, que ces cellules de Daesh existent. Certains parlent même de plus de 10 000 ou 15 000 combattants de Daesh un peu partout.
Mais du coup, est-ce qu'on sait ce qui se passe à la fin, en fait, lorsque cette fin territoriale est actée, qu'est-ce qui se passe après? On les connaît, les autres points chauds. Il y a un point chaud à Idlib, c'est d'une autre manière, mais ça aussi, c'est un point important. Est-ce qu'on sait ce qui se passe immédiatement quand on pourra dire le califat est mort?
Ah ben, encore une fois, le califat n'est pas mort, ne sera pas mort. Ça, je crois qu'il faut vraiment avoir ça, malheureusement, dans la tête.
Califat territorial, pardon.
Califat territorial, oui, c'est ça. Mais enfin, encore une fois, on l'a vu d'ailleurs dans le temps avec Al-Qaïda. Al-Qaïda s'est reconstitué, a muté, toutes ces organisations bougent. Et que vont faire aussi tous ces jeunes qui sont parfois des enfants de djihadistes, filles et fils, qui seront laissés à eux-mêmes, certains feront dans des camps de réfugiés, comment on va les traiter, comment on va essayer de les réintégrer dans la société, que ce soit d'ailleurs en Syrie, en Irak, et en Syrie en particulier. Vous avez très justement rappelé Idlib, il ne faut pas oublier que si c'est pour que ces gens-là, notamment les civils, tombent de l'enfer du califat dans l'enfer du régime Assad, à quoi cela sert-il? On sait aussi qu'Assad a libéré un très grand nombre de djihadistes. Aujourd'hui, depuis un mois, il commet des crimes de guerre avec la Russie en bombardant Idlib. Donc c'est aussi ces réalités-là qui sont très importantes.
Vous dites que le sauvetage d'Idlib dépendra de l'avenir de la Syrie. Pourquoi est-ce que le sauvetage d'Idlib et celui de la Syrie sont tellement ensemble selon vous?
Mais pour moi, de manière évidente, parce qu'on ne peut pas accepter qu'Assad gouverne la Syrie. Non seulement parce que, encore une fois, c'est susciter évidemment la terreur de demain, mais parce qu'on a un régime qui assassine sa propre population dans la région, dans les régions, c'est-à-dire à peu près 70% du territoire contrôlé par Assad. Vous avez toujours les crimes contre l'humanité, donc des tortures, des meurtres commis dans les prisons. Et on sait très bien que à Idlib même, il y a plus de 3 millions de personnes, dont environ 2 millions de réfugiés, 1 million d'enfants, peuvent être soumis, parce que la Russie n'a pas fait le mystère qu'elle voulait aider Assad à reconquérir le territoire, qui sont en danger
mais
de mort.
Mais l'assaut n'a pas eu lieu. On a longtemps parlé, souvenez-vous, c'était il y a quelques semaines, d'un assaut avec cette coalition russo-turque, qu'on allait fermer cette poche d'Idlib une bonne fois pour toutes. On sait bien qu'il y a des dissensions entre les Russes et les Turcs
à ce sujet-là. Bien sûr, qui sont de plus en plus fortes d'ailleurs.
Absolument. Néanmoins, il ne s'est rien passé encore. Est-ce qu'il ne se passera rien? Ou est-ce que maintenant que, à nouveau, les regards vont être portés sur Idlib, il risque de se passer quelque chose pour cette population?
Je pense qu'encore une fois, aussi bien Assad que les Russes ont dit qu'ils voulaient rétablir ce qu'ils appellent l'intégrité de la Syrie, c'est-à-dire redonner à Assad l'ensemble. Donc la question n'est pas la question de savoir finalement s'il y aura un assaut ou pas, mais quand il aura lieu et comment, selon quelle modalité il va avoir lieu. Et ça peut être un événement qui est encore pire que ce qu'on a connu en 8 ans de guerre en Syrie. Donc, encore une fois, quand je dis que c'est là que va se jouer le destin, c'est-à-dire que soit nous sommes capables de sauver ces populations du joug encore une sanglant d'Assad, soit ça veut dire qu'on va laisser se défaire non seulement la loi internationale, qu'on aura un mépris total pour la responsabilité de protéger, mais qu'on donnera une victoire stratégique totale également à la Russie. C'est ça le vrai sujet. Avec, encore une fois,
allez-y,
pour les djihadistes, que ce soit ceux qui viennent de Barouz ou d'autres régions, un champ libre. Et c'est ça aussi, je dirais, un danger majeur pour l'Occident aussi en retour.
Alors, dans le même temps, il vous a pas échappé, ni à vous ni à nous, que les Émirats Arabes Unis étaient en train de rouvrir une représentation diplomatique à Damas, que doucement, Damas est en train de revenir dans la Ligue Arabe. On n'y est pas encore, mais enfin, on est quand même à deux doigts.
On verra le 31 mars,
alors,
effectivement.
Voilà. Donc, on a un peu le sentiment quand même qu'il y a une normalisation arabe en vue, on va appeler ça comme ça, en y mettant des guillemets. qui nous dessert, nous, de notre côté, non ou pas ?
Ça nous dessert, nous, parce que toutes les tentatives de réhabiliter le régime vont contre les principes du droit que les pays libres ou dits libres ont essayé de défendre depuis toujours. C'est évidemment la fin totale de la crédibilité des Nations Unies, non pas de la faute, que ce soit la faute des Nations Unies, mais parce qu'encore une fois, on le sait très bien, avec les vétos, ils sont totalement paralysés. Ça veut dire aussi qu'on donne une légitimité à l'un des tyrans les plus sanglants du XXIe siècle. Donc je crois que nous, ce qu'il faut faire, c'est évidemment faire pression sur ces pays arabes, dont certains sont plutôt considérés comme nos alliés, pour qu'ils maintiennent leur position parfaitement claire par rapport au régime, qui était la leur quand même avant, et qu'ils abandonnent cette tentative. C'est tout un jeu diplomatique à essayer de faire comprendre. Ce sont des négociations lourdes, longues, qui ne peuvent pas avoir lieu, ni avec le régime, il faut le redire, ni avec la Russie. Maintenant, dernier point, il est clair qu'avec, évidemment, le retrait américain de la région, c'est non seulement un problème pour la lutte contre les djihadistes, mais aussi pour peser sur le processus politique qui aura lieu en Syrie. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle.
Et vous le voyez donc, vous voyez des élections sous mandat international, ça veut dire que vous les voyez de loin, mais vous les voyez.
C'est ce faire quoi il faut s'acheminer, mais aujourd'hui, je ne vois pas quand, ni comment elles vont être possibles sans, encore une fois, une nouvelle politique de la part de l'Europe et de la France en particulier.
Ce qui vous donnera l'occasion de revenir, on n'a pas fini hélas, j'ai envie de dire, d'en parler de cette situation. Merci beaucoup de votre passage d'un jour dans le monde, Nicolas Kenzer.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite, ça se passe en Éthiopie. Je vous emmène voir des églises protégées que l'on restaure sous les radars. Et Amélie Perrier devine qui est invitée au mariage. Ça se passe en Turquie. On vous raconte ça tout à l'heure. La chronique pour tous. Et Julia Foyce. Julia, quels sont les pays où il fait bon vivre pour les LGBT+ ?
Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, c'est pas chez nous. Je vous raconterai ça tout à l'heure. C'est un classement très officiel établi chaque année.
Le Monde à l'envers. Jean-Marc Faux. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne. Bonsoir à tous.
On va parler dépôt de brevets industriels ce soir. Et qui dépose le plus de brevets dans le monde ?
Devinez. Huawei, Washington nous dit « Méfiez-vous de la firme chinoise ». Moi, je dis « Ils ont déjà gagné ».
Allez, Paul McCartney est là. À l'époque des Wings, figurez-vous. La chanson s'appelle « Jet » sur France Inter. Eh bien, ça fait du bien, un petit Paul McCartney, tiens, de l'époque des Wings, Amélie Perrier est de retour.
France Inter.
Good evening and welcome.
Erasmus Papillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars, Amélie, avec la Turquie qui est en campagne, élection locale le 31 mars.
Et le président turc Recep Tayyip Erdogan donne tout pour convaincre ses plus féroces opposants. Alors oui, c'est lui.
Ça, ça casse une image. Hein.
C'est le chef de l'État turc au micro devant une foule de partisans. Il fredonne le morceau à la mode en ce moment. Nereden, Nereye, cela veut dire d'où à où. La chanson parle d'une Turquie qui s'est beaucoup développée sous Erdogan. D'où à où est arrivée la Turquie, voilà les paroles. Il faut savoir que le pays est très mélomane. La musique est partout, y compris en politique, depuis toujours. Et pour le parti d'Erdogan, l'AKP, elle est devenue une arme massive, incontournable. Le pays traverse une période difficile, en récession pour la première fois depuis 10 ans. Ne parlons pas des droits de l'homme, des purges chez les fonctionnaires, des emprisonnements de tous les opposants. Alors l'AKP monte le volume à des niveaux assourdissants lors des meetings et l'AKP a missionné des compositeurs pour mettre en musique l'actualité et vanter le patriotisme, la grandeur de la Turquie d'Erdogan. Un tube raconte par exemple la tentative de putsch manquée contre le président en juillet 2016. Et l'opposition elle aussi veut battre la mesure. Alors le principal parti en face d'Erdogan, le CHP, les sociodémocrates, ont un répertoire de chansons de gauche un peu vieillotte, hein, souvent tirées des manifs. Et pour se mettre au goût du jour, ils renouvellent leur répertoire avec même du rap. Kılıçdaroğlu, chanté en refrain, c'est Kemal Kılıçdaroğlu, le patron du CHP, 70 ans, kémaliste, républicain, laïque, surnommé le Gandhi turc. Voilà, il espère rallier la jeunesse à lui avec ce genre de morceaux.
En tout cas, Amélie, le président Erdogan peut compter sur un soutien musclé.
Le soutien d'une des plus grandes stars du sport allemand, Mesut Özil. Le footballeur vient d'annoncer qu'il comptait demander à Recep Tayyip Erdogan d'être son témoin de mariage. Et ça ne plaît pas du tout au pouvoir allemand. Le chef de cabinet de la chancelière Angela Merkel déclare « Évidemment, ça nous attriste, ça déçoit beaucoup de supporters de football et moi aussi. » Donc, déclaration de Helge Braun. Cela fait un moment que le footballeur s'attire les foudres de l'opinion publique et des dirigeants en Allemagne. Et ça a commencé l'été dernier. Özil s'est fait photographier en train d'offrir un maillot au président Erdogan alors que les relations sont mauvaises entre Berlin et Ankara. Polémique ensuite sur les origines turques d'Özil. Il est né à Gelsenkirchen en Allemagne, immigré de troisième génération. Il n'a pas du tout la nationalité turque, donc, mais on lui reproche par exemple ici... Eh bien, de ne pas chanter l'hymne allemand avant les matchs. Après l'échec de la Mannschaft en Russie l'an dernier, il a claqué la porte de l'équipe nationale en accusant la fédération allemande de racisme. Alors, le porte-parole de la chancellerie vient de relancer ce débat sur le rôle de modèle des footballeurs de la Mannschaft. Et avec cette question, jusqu'à quel point quelqu'un qui porte le maillot national se sent-il allemand?
Allez, on termine encore en musique, cette fois avec le Requiem de Mozart. Alors, c'est très joli, c'est très gai aussi.
Oui, Requiem pour les Saoudiens, voilà, à la Scala de Milan. Vous avez parlé de ce projet du patron de l'opéra milanais de faire entrer des capitaux saoudiens et le ministre saoudien de la Culture au conseil d'administration. Eh bien, ce conseil s'est réuni hier et a voté contre à l'unanimité. Retour à la case départ, nous allons rendre l'argent aux Saoudiens, vient de déclarer le maire de Milan, également président de la Scala. L'accord avec Riyad portait sur 15 millions d'euros. 3 millions avaient déjà été versés. C'était une idée du directeur de l'opéra milanais, Alexander Pereira. Mais après le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, l'alliance faisait polémique. Ses détracteurs condamnaient la vente d'un des joyaux les plus précieux de la culture italienne à un régime bafouant les droits de l'homme. Pereira jouait ici sa tête. Il pourrait toutefois rester en poste jusqu'en 2020.
C'est pour ça que vous avez choisi l'extrait de La colère des dieux du Requiem de Mozart.
C'est exactement ça. Vous avez tout compris.
Quel talent.
Le sous-texte.
Allez, à demain.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Pékin, le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est en Éthiopie que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir. On y fait des allers-retours en Éthiopie en ce moment parce que la situation de ce pays est en train de changer. Mais je voudrais plutôt qu'on aille voir un site classé au patrimoine mondial de l'humanité. Nous allons à Lalibéa et c'est au nord du pays. Bonsoir Vincent Dublange.
Bonsoir Fabienne.
Vincent, vous nous emmenez à Lalibéa parce que le site est en danger. On entend des gens qui travaillent autour de vous. Il fait partie des 12 premiers sites classés par l'UNESCO en 78. Nous parlons de 11 églises chrétiennes orthodoxes construites il y a au moins 800 ans. Mais ces mesures de protection font polémique sur place.
Notamment les toits qui ont été posés pour coiffer 5 églises il y a 10 ans. Une solution provisoire mais qui dure et les habitants craignent que ces toits n'abîment leur lieu de culte qu'ils utilisent encore et toujours aujourd'hui.
Et du coup, leur particularité à ces églises, c'est qu'elles sont creusées dans la roche.
Certaines sont même entièrement séparées du reste du rocher, sauf au plancher, bien sûr. On les appelle monolithiques. Il y en a 4 sur les 11 églises et aujourd'hui encore, les chercheurs n'en ont pas percé tous les mystères. Le ciel alterne entre lourds nuages noirs et grand soleil. La saison des pluies touche à sa fin sur les hauteurs de Lalibela, à 2600 mètres d'altitude. Un groupe d'ouvriers creuse sous le regard d'universitaires français et éthiopiens. Comme chaque année depuis 10 ans, ils tentent de mieux comprendre le site. Claire Bosque-Thiessé est historienne.
Quand on a commencé, tout le monde pensait qu'il avait été fait en un seul temps, en un seul moment, au début du XIIIe siècle. On s'est rendu compte que ce n'était pas possible et qu'en fait, il avait été fait en plusieurs étapes et que de fait, on le voit bien tout au long du XXe siècle, il continue à se transformer. Donc il y a une occupation avant que le roi Lalibela investisse le lieu au XIIIe siècle. Et les gens qui sont là ont déjà expérimenté la taille de la roche. Ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que c'est un apprentissage progressif, puisqu'on commence par des choses simples qui sont approfondies au fur et à mesure avec l'expérience qui est acquise.
Cette expérience s'est transmise au fil des siècles et de nos jours, des ouvriers excavent et sculptent encore des édifices dans la roche volcanique du nord de l'Éthiopie. À quelques centaines de kilomètres de Lalibela, le père Gebregiorgis termine actuellement sa 3e église. Elle prend la forme d'une imposante grotte avec des piliers sculptés.
J'ai vu beaucoup d'églises creusées et après j'ai commencé à creuser une grotte pour les animaux, les chèvres et poules. Et donc je me suis dit que c'était possible finalement de construire une église. Avant je ne pensais pas en être capable, ni même qu'un homme pouvait avoir construit de telles églises.
Donc c'est comme ça qu'on peut identifier de loin la présence d'une nouvelle église.
Comme beaucoup de ces nouveaux creuseurs, le père Gebregiorgis n'est jamais allé à Lalibela. Mais la figure tutélaire continue de marquer les esprits dans la région, témoigne le chercheur canadien Michael Gavers. Il s'est spécialisé dans le sujet.
Il y a un prêtre qui a creusé déjà 5 églises, toutes liées l'une de l'autre, influencées par l'idée de Lalibela, et il appelle à la nouvelle Lalibela. Son intention, c'est de montrer au monde que ceux qui ont creusé Lalibela étaient des Éthiopiens et pas des ouvriers qui sont venus d'ailleurs. Parce que souvent on dit que c'est pas possible les Éthiopiens de faire une chose pareille.
Le coût est l'une des principales raisons avancées par les communautés villageoises qui creusent de nouvelles églises en Éthiopie. Et c'est aussi l'une des hypothèses privilégiées pour expliquer le site de Lalibela. Creuser la roche, c'est moins cher et ça dure. Une longévité pourtant remise en cause sur le site classé par l'UNESCO il y a 50 ans. Début octobre 2018, des habitants manifestent et des responsables locaux prennent la parole, comme on l'entend sur ce reportage de la télévision publique ITV. Kidane Mariam Waldegiorgis est un universitaire originaire de Lalibela. Il a vécu cette manifestation en première loge.
Laissez-moi vous donner un exemple. Ils ont fait une église Sainte-Marie en miniature, sur laquelle ils ont mis un toit de protection. Et les filles portaient ces maquettes en disant « S'il vous plaît, mes enfants, libérez-moi de ce fardeau ». Parfois, les habitants de Lalibela, quand il y a du vent et de la pluie, viennent veiller sur leurs églises et disent « Ça y est, les églises vont être détruites ». Elles vont mourir.
L'Union européenne a donné plus de 7 millions d'euros pour installer les toits de protection en 2008. Depuis son bureau de l'UNESCO à Addis Abeba, Getu Assefa n'est jamais loin de la ville sainte de Lalibela. Il y a consacré sa thèse à travailler pour les institutions gouvernementales du patrimoine et exerce depuis 10 ans ses talents au sein de l'UNESCO. Il justifie la pose de ces toits.
Il y a besoin de mesures protectives. Jusqu'à ce qu'on étudie et trouve les bonnes techniques, ce qui a été décidé était de poser un abri au-dessus des églises. C'est temporaire. Ce n'est pas de la restauration, mais seulement des mesures de protection. Il s'agit de stopper l'évolution de la situation en attendant de trouver la solution.
La solution, Aïlou Zeleke dit l'avoir trouvé. Le directeur de l'autorité pour la conservation du patrimoine sait qu'il faudra à terme enlever ces protections peu esthétiques et potentiellement dangereuses. Deux églises non protégées par un toit viennent tout juste d'être restaurées. Et les fissures ont été colmatées avec un enduit spécial, apparemment efficace et peu invasif. Une membrane étanche a été posée sur le toit de l'édifice rocheux. Cela doit servir d'exemple, dit Aïlou Zeleke.
C'est un projet sur 3 ans, en 2 phases. D'abord, restaurer les toits des églises, puis démanteler le toit de l'église Abba Libanos uniquement. Ensuite, on attend 2 saisons, une pluvieuse et une sèche, pour voir les effets sur l'église. Puis, on poursuit sur les autres.
Restaurer, protéger les toits des églises et enlever les protections demande environ 300 millions de beurre, soit 9 à 10 millions d'euros. Selon Aïlou Zeleke, son institution dispose déjà de quasiment un quart de cette somme. Pour le reste, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a demandé l'aide de différents dirigeants étrangers, dont Emmanuel Macron, lors de sa visite à Paris en octobre 2018. Des équipes françaises sont venues sur place début 2019. Emmanuel Macron est attendu en Éthiopie au mois de mars.
Et merci pour le reportage, Vincent Dublanche. Voici Michael Chapman sur France Inter, After All This Time.
Can hurt me most, which can cause the distance between two people once so close. We were so close. Just like they always do. We grew up and grew apart, found other dreams to be pursued, to be pursued.
Chaptan est sur France Inter, After All This Time. Mais voilà Julia Foyce.
So I want all the girls that a new day is on the horizon.
Fabienne Saintès.
We're all scared of girls.
Bonjour tout le monde.
La chronique pour tous et Julia Foyce. Donc, mesdames, messieurs, Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde, bonnes ou mauvaises. On commence par la femme de la semaine.
Elle est iranienne, avocate, elle s'appelle Nasrin Sotoudeh et certains d'entre vous ont sans doute déjà été bluffés par ce mélange de sérénité et de détermination qui transparaît à chaque fois qu'elle prend la parole. Souvenez-vous, c'était en 2015, elle faisait une apparition dans le film de son compatriote Jafar Panahi, Taxi Téhéran.
Tu sais, Jafar, il faut en sorte qu'on sache qu'ils nous surveillent. Leurs tactiques sont évidentes. Ils te créent un casier politique, tu deviens un agent du Mossad, de la CIA, du MI5. Ensuite, il t'ajoute une affaire de mœurs. Ils font de ta vie une prison. Tu es sorti, mais le monde extérieur n'est qu'une plus grande prison. Ils font de tes meilleurs amis tes pires ennemis. Il te reste à fuir le pays ou alors à prier pour retourner au trou. Donc il n'y a que ça à faire. Ne pas s'en faire.
Elle y est retournée au trou et ce rire, on ne l'entend plus. En 2010, elle avait déjà purgé 3 ans de prison pour avoir défendu des manifestants qui défilaient contre le régime. 2 ans plus tard, elle reçoit le prix Sakharov, décerné par le Parlement européen pour son combat en faveur de la liberté de penser. Aujourd'hui donc, elle se retrouve derrière les barreaux de nouveau, promise en tout à 38 ans de prison et 148 coups de fouet. Condamnée, entre autres, pour incitation à la débauche, on lui reproche cette fois d'avoir défendu des femmes qui avaient osé enlever leur foulard en public. Ça vous choque ? Parfait. Vous pouvez faire quelque chose. Allez sur le site d'Amnesty International, www.amnesty.fr, et vous trouverez sur la page d'accueil un tweet pré-rédigé à envoyer au guide suprême de la révolution islamique ou un mail à destination de l'ambassade d'Iran. Allez-y et faites-les pleuvoir, s'il vous plaît, pour la libération de Nasrin Sotoudeh.
Allez, Julien, un bon coup de pub cette semaine.
C'est à la régie de transport berlinois qu'on le doit. Hier, lundi, les tickets de métro vendus aux femmes affichaient une baisse de 21% sur les tarifs usuels. 21%, c'est en moyenne l'écart salarial officiel entre les hommes et les femmes en Allemagne. Et la date n'était pas non plus choisie au hasard. Le 18 mars, c'est le 77e jour de l'année. Et il faudrait 77 jours de travail en plus pour que les femmes puissent rattraper ces inégalités. Joli coup de pub dans un pays qui n'est pas très bon élève en la matière. Belle idée de com aussi pour une entreprise qui n'emploie que 20% de femmes, certes, mais parmi elles, il y a la Big Boss. Oui, la BBG est dirigée par une femme, comme quoi, parfois, ça peut changer légèrement la donne.
Allez, Julie, on termine avec l'info de la semaine.
Vous savez qui a déclenché la tempête qui a frappé la Malaisie le 9 mars dernier ?
Non, mais je vais le savoir.
Eh ben, la communauté LGBT, évidemment, souvenez-vous. Il y avait eu un rassemblement ce jour-là à Kuala Lumpur, des dizaines et des dizaines d'homosexuels dans les rues rassemblés pour demander un chouille de liberté, de droits supplémentaires. Évidemment, ça a déclenché la colère des dieux qui, de là, bon, et forcément, ont envoyé les vents, le tonnerre, la foudre. C'est en tout cas ce qu'a cru bon de déclarer une internaute avec un tweet partagé 14 000 fois dans un pays où l'homosexualité reste proscrite et qui, comme telle, figure en très mauvaise position sur le classement établi chaque année par le site Spartacus. Après avoir compilé les données fournies par de grandes ONG plus l'ONU, celui-ci fait le point sur l'avancée des droits LGBT dans le monde. Les purges anti-homosexuelles perpétrées régulièrement en Tchétchénie lui offrent allègrement la dernière place du classement. À l'autre bout, premier ex-aequo, le Portugal vient de rejoindre la Suède et le Canada. Là-bas, les couples d'hommes et de femmes peuvent se marier et faire des enfants. Si, si, vous vous rendez compte, hein ? La France, elle, dégringole en passant de la 6e à la 17e place cette année. Hausse des actes homophobes d'un côté, report de la loi sur l'ouverture de la PMA de l'autre. Comment vous dire, c'est pas brillant, brillant tout ça.
Allez, Julia Foyce dans Un jour dans le monde tous les mardis. Merci.
Le 18-20, Fabienne Synthès sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, depuis 2 mois, Huawei est sur la sellette soupçonnée d'espionnage au profit de Pékin. Washington cherche à déstabiliser le géant chinois des télécoms, mais 2 informations rendues publiques aujourd'hui vous font dire qu'il est peut-être déjà trop tard. Huawei a gagné la bataille technologique, c'est votre monde à l'envers.
Et la première scène est passée relativement inaperçue. Je vous raconte, c'était ce matin en Allemagne et nos voisins ont officiellement ouvert les enchères pour l'attribution des chantiers du futur réseau numérique ultra rapide 5G. Et les équipementiers chinois, ZTE et Huawei donc, n'ont fait l'objet d'aucun veto de principe. Les opérateurs téléphoniques en lice, comme Vodafone ou Deutsche Telekom, pourront faire appel à eux. Vous allez me dire, et alors ? Eh bien, c'est en soi une victoire de taille pour Huawei. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ont exercé une pression considérable sur Berlin afin de barrer les entreprises chinoises. Au motif, on le sait, que Huawei en particulier est soupçonné par Washington de pouvoir utiliser le réseau 5G à des fins d'espionnage pour le pouvoir chinois. Washington menace même de cesser tout échange d'informations militaires avec l'armée allemande. Eh bien, ça n'a pas changé grand-chose. Huawei reste en course et ça, c'est révélateur. L'entreprise chinoise est devenue incontournable.
Et c'est une question de quoi ? De taille ? De puissance économique ?
Oui, malgré d'ailleurs les mesures de rétorsion qui affecte les ventes aux États-Unis et en Australie, l'entreprise se porte comme un charme. En janvier et février, elle affiche des ventes en hausse de 36% par rapport à la même période l'an passé. Prévision pour l'année 2019, plus 15%, avec près de 110 milliards de chiffre d'affaires et 190 000 salariés. vous en voulez encore ? Mm-hmm. Sur le marché de la téléphonie, Huawei est en passe de doubler Apple pour devenir le numéro 2 mondial derrière Samsung. Et sur le marché des infrastructures, c'est-à-dire les antennes, les équipements réseau, le géant chinois est déjà le leader mondial, présent dans 170 pays. En plein essor en Europe, où la firme s'apprête à ouvrir 15 boutiques et 23 centres de services, déjà maître du jeu dans une grande partie de l'Asie, et plus encore en Afrique, où Huawei a déployé 70% du réseau 4G. C'est-à-dire qu'en moins de 30 ans, ce modeste sous-traitant chinois au départ est devenu un leader mondial, et en plus, il regarde encore plus loin.
Donc vous voulez dire qu'ils ont un coup d'avance ?
Et en fait, ils ont plusieurs coups d'avance. Et c'est ça l'autre information du jour qui est passée, elle aussi relativement inaperçue. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a publié son rapport annuel sur le nombre de brevets technologiques déposés dans le monde. La Chine talonne désormais les États-Unis et surtout, quelle est l'entreprise au monde qui dépose le plus de brevets ? Et bingo, Huawei. Et dans les grandes largeurs, 5300 licences requises l'an dernier, c'est deux fois plus que l'entreprise suivante au classement, le japonais Mitsubishi. Autrement dit, le laboratoire mondial de l'innovation, c'est Huawei. Budget de recherche pour les 5 années à venir, tenez-vous bien, 100 milliards de dollars. Colossal. Concrètement, ça veut dire plusieurs choses. Un, Huawei a déjà déployé une grande partie du réseau d'antennes pour la 5G en Europe et y renoncer coûterait donc une fortune aux opérateurs téléphoniques. Deux, le géant chinois vient de dévoiler la semaine dernière avoir développé son propre système d'exploitation au cas où Washington l'empêcherait d'utiliser les licences américaines comme Android. 3. La firme installe ses propres câbles sous-marins pour déployer son réseau. 90 projets au total, un peu partout sur la planète. Donc oui, c'est trop tard. Huawei, c'est déjà plus fort que toi.
Donc qu'est-ce qu'on fait ? On se résigne, on baisse les bras, c'est l'idée.
C'est pas tout à fait ça que je dis. Simplement, bon, tâchons évidemment de pas être naïfs sur l'existence derrière cette entreprise d'arrière-pensée du pouvoir chinois sur un éventuel contrôle de nos communications. Pour autant, ne soyons pas naïfs non plus sur les arrière-pensées de Washington de l'autre côté, qui se prive pas non plus d'espionner nos communications quand bon lui semble. Mais question, que reste-t-il effectivement à l'Europe ? Il est trop tard, je le disais, pour concurrencer Huawei, mais pas trop tard pour installer des garde-fous, imposer des tests pour vérifier le matériel, ratifier des clauses de non-espionnage, faire changer certaines installations au besoin, exiger les codes sources numériques, etc. Donc l'Europe, ça, elle peut l'obtenir à condition d'être unie sur le sujet. Le problème, c'est que l'unité en ce moment, c'est pas gagné.
Merci beaucoup Jean-Marc Fourré, le monde à l'envers, tous les jours dans Un jour dans le monde. On reste ensemble pour Le téléphone sonne. Juste avant, il y aura le journal de Sébastien Paour. Merci de passer la soirée avec nous.